La première, podcast.
13h15, 14h.
Le grand oral RTBF le soir.
Sur la première.
Jacques Crémers.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans le grand oral, l'interview d'une personnalité par trois journalistes des rédactions de la RTBF et du soir. Et aujourd'hui, c'est Joëlle Milquet que nous recevons. Bonjour.
Bonjour.
Joëlle Milquet, députée régionale bruxelloise, précédemment ministre de l'Éducation, de l'Intérieur et présidente du CDH. Avec vous, nous allons tout d'abord revenir sur notre enquête Noir-Jaune-Blues menée par Survey and Action pour la RTBF le soir et la fondation Ceci n'est pas une crise, une enquête qui dresse un constat d'échec pour le vivre ensemble. Nous verrons quelle pourrait être votre réponse, car cette étude, Jean-Pierre Jacquemin, elle interpelle le monde politique.
Oui, le monde politique, mais pas que, le monde médiatique également, mais aussi, pourrait-on dire, l'industrie de l'alimentation, avec des Belges qui croient qu'on les empoisonne quand ils mangent. Et puis, bien sûr, vous l'avez dit, le vivre ensemble. En gros, les Belges remettent en cause leurs nouveaux voisins. Alors, un monde déboussolé, abandonné. Mais peut-être que les questions qu'on peut se poser, c'est comment retrouver un peu de sens à cette société, comment retrouver le lien entre les gens de ce pays et leurs institutions.
La gouvernance des acteurs politiques qui régulièrement trébuchent sur des situations qui semblent enfreindre l'éthique, c'est notamment l'affaire Publifine, avec des rémunérations anormalement élevées ou encore les conditions dans lesquelles la loi sur la transaction pénale a été adoptée, le fameux Kazakhgate. Ce sera avec vous, Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Journal Le Soir.
Bah oui, quand même une série de personnes qui disent dans le fond la confiance dans les institutions qui est en baisse, le doute sur les hommes politiques, etc. Bah finalement, est-ce que ce n'est pas nourri par les pratiques, par certaines pratiques en tout cas, qui sont à l'œuvre dans le monde politique? Et c'est vrai que l'affaire Publifin, pour beaucoup, a été un peu emblématique de cela. Et donc, on aura l'occasion d'en parler, le Kazakhgate aussi, de voir ce que Mme Milquet en pense. Ce sont deux sujets du moment, mais qui en touchent plein d'autres, si on en croit Mme Galland.
Alors, nous poursuivrons avec la situation que vit actuellement votre parti, le CDH. Il est aujourd'hui sous la barre des 10% des intentions de vote en Wallonie, en recul aussi à Bruxelles. Enfin, nous terminerons par un dossier dont vous avez été l'initiatrice, c'est le pacte d'excellence élaboré avec les acteurs de l'école. C'est parti pour 40 minutes. Nous sommes en radio, sur la première, en télévision, sur la 3 et sur Internet.
Jusqu'à 14h,
le grand oral RTBF le soir sur la première.
Joël Milquet, blanc sur les routes, noir jaune blues dans le cœur et dans la tête des Belges. C'est le résultat de notre enquête. Une société habitée par la peur, de plus en plus xénophobe. Vous avez été surprise par les résultats de cette étude?
À vrai dire, non. Peut-être sur l'ampleur, mais ça dépend aussi de la manière dont les questions sont formulées. Mais sur les constats, non, parce que c'est en tout cas des constats que nous faisions depuis déjà de longs mois et qui ont été confirmés au fur et à mesure à l'occasion de l'élection de Trump, de la problématique de la montée des populismes en Europe, ce qu'on a vu aussi à l'occasion du Brexit, et qui, moi, m'inquiète profondément. C'est la raison pour laquelle c'est un sujet sur lequel je travaillais, parce que je pense qu'il faut un sursaut collectif des différents mondes concernés, parce qu'au fond, ça concerne tout le monde. On est face à un constat qu'il faut entendre, et la pire des choses serait d'en rire, ou de victimiser, ou de diaboliser. Je pense que c'est un constat qu'il faut commenter, qu'il faut entendre, qui est et qui démontre à la fois une perte complète de repères de citoyens qui sont bousculés par une mondialisation, par aussi un changement complet de société, voire de civilisation numériques, qui ne retrouvent plus leurs repères non plus culturels ou religieux, qui ont fait l'homogénéité parfois de leur passé ou de leur histoire, qui aussi vivent mal une sorte de déclassement, des classes moyennes, qui vivent aussi très mal parfois la discrimination abyssale en termes de revenus par rapport aux revenus du capital, à ce que peut gagner les actionnaires, qui ont l'impression que les gouvernants sont dépassés, que les États-nations sont dépassés, que personne ne contrôle cette mondialisation, ce qui est partiellement vrai. Et alors arrive évidemment, et ça on le sent depuis très longtemps et déjà depuis au fond le 11 septembre, toute la problématique liée au terrorisme djihadiste, aux rapports difficiles, aux amalgames, à l'incompréhension par rapport aux musulmans et donc la montée d'une islamophobie, mais aussi sur fond de radicalisme et de multiples racismes et rejets mutuels, parce qu'on a aussi des rejets du belge, entre guillemets. Donc on est... Enfin, moi, je fais de la politique depuis 25 ans, je n'ai jamais vécu, ressenti la fragmentation à ce point polarisée et tacitement haineuse de notre société. Alors, il y a des choses magnifiques par ailleurs. Hein, mais...
Ce constat, Joël Milquet, il est imputable à qui, selon vous ?
Alors, moi, franchement, je pense que commencer à toujours prendre un bouc émissaire en disant « mais c'est les politiques, mais non, c'est les médias », et puis c'est... Je pense que c'est imputable à tout le monde, déjà, parce que tout le monde doit laver devant sa porte. Bien évidemment, au niveau politique, il y a, je pense, des responsabilités. On va arriver peut-être sur des éléments relativement peut-être liés à l'éthique, etc. Mais plus fondamentalement, la problématique de la fonction politique, pour le moment, elle est gérée dans l'immédiateté, avec des médias, de la numérisation qui nous demandent d'être de plus en plus simplistes, de devoir tellement raccourcir des situations complexes pour expliquer qu'on en arrive parfois à devoir tellement schématiser les choses alors qu'on est face à des situations qui demandent des nuances. Et moi, ce qui me fait le plus peur dans certaines tentations politiques, et c'est en ça qu'on doit tous se mobiliser, bien au-delà des partis, des clivages, etc., c'est la tentation populiste. C'est tellement simple de se dire que faire de la politique, c'est donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre émotionnellement. Autant il faut les entendre, autant on doit prendre en compte leur incompréhension ou leur émotion. Autant on doit garder la tête froide, le cœur chaud sûrement parce que ça doit nous toucher, on doit venir aussi avec des réponses humanistes personnalisées, mais on ne peut pas tomber dans l'idée selon laquelle le politique en fait ne fait que suivre le mouvement. On doit oser, et c'est ce qui manque sans doute, donner un cap, oser donner une vision de la société de demain dont personne ne comprend encore le fonctionnement qui est complètement à écrire ensemble. Et je pense qu'il y a pour le moment non seulement une absence de pédagogie du monde politique classique, mais aussi une absence de projection positive, avec confiance, pour dire voilà vers où on veut aller, voilà comment on va y aller.
Une question, si vous permettez. Olivier Chastel, dans Jeudi en prime, a dit que, en fait, un des points les plus sensibles, c'est le racisme ou c'est la xénophobie. C'est les gens qui, à 80%, disent on est envahi par les musulmans. Il dit ça, c'est la démonstration complète de l'échec de la politique d'immigration faite par les gouvernements précédents depuis 15 ans.
Voilà, moi, je trouve ça très simple.
Vous la mettez dans le populisme ou est-ce que vous prenez en compte ce qu'il dit et ce que Daniel Ducarme disait à l'époque sur l'échec de l'intégration.
Enfin, moi, je déteste que ce soit, de qui que ce soit, les propos qui sont simplistes. C'est l'intégration ou l'insertion ou la multiculturalité de la société n'est ni un échec ni une réussite. Il y a des choses magnifiques qui se font tous les jours, qu'on est en train de balayer d'un revers de la main par ce qui est en train d'arriver en termes de vivre ensemble.
Par exemple ?
Mais venez, moi je voudrais vraiment, j'invite la RTB à venir par exemple, cette année comme chaque année, aux Diwan Awards. Les Diwan Awards, c'est une organisation qui rend hommage à tous ces jeunes issus de l'immigration, qui deviennent médecins, qui sont journalistes, qui sont dans le monde associatif, qui ont fait des études magnifiques.
Avec fierté
mais il y a 3000 personnes, donc voilà, et partout, pour aussi montrer qu'il y a des trajectoires magnifiques. Alors, nier les problèmes, non. On a ce problématique de radicalisme, on a des échecs en matière de civilité, en matière éducative, d'inégalité éducative, on a les dérives...
Mais qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas ? Parce qu'on le voit dans l'enquête Noir-Jaune-Blue, c'est évident. C'est évident aussi, nos collègues du Standard ont interrogé une centaine de gens dans la rue et ils arrivent quelque part au même genre de constat sur le fait que les gens continuent à dire « bon, les étrangers, il y en a trop, les musulmans vont définir notre style de vie ». Il y a même des gens qui disent « ah, mais vous savez qu'on veut installer un sultanat dans nos pays et c'est ça l'objectif ». Donc il y a toutes ces déclarations, cette peur qui existe, et on voyait cette semaine encore, on a remis le docteur Honoris Causa à Angela Merkel à la KUL, et en même temps ça suscite une polémique terrible, parce qu'on estime qu'elle, en ayant laissé donner l'impression qu'on pouvait accepter plus de migrants, avait déboussolé le système. Donc qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas, ces idées d'une intégration réussie ? C'est pas ce que les gens pensent.
D'abord, c'est parce qu'il n'y a pas non plus d'audace de contre-discours et de courage pour aller aussi expliquer les choses. C'est tellement tentant de dire tous « ça ne va pas » et alors on travaille évidemment le sentiment de rejet qui peut parfois être légitime sur des aspects de radicalisme et des peurs liées au terrorisme que je partage entièrement et pour lequel il faut des politiques sécuritaires en tout cas fortes. Et je ne pense pas que sur ce point, en tout cas, on n'y a pas été quand j'étais ministre de l'Intérieur. Mais il faut aussi dire les choses. L'Europe, on a ce sentiment d'invasion, mais l'Europe, elle accueille 8% des réfugiés du monde. Où sont-ils ces réfugiés? Et ben, pour le moment, ils sont au bord de la Syrie, ils sont en Turquie, le Liban qui a une petite population, qui a le double de sa population, la Jordanie, etc. Donc l'invasion telle qu'on l'imagine en tant que telle reste quand même relative. Deux, c'est vrai qu'on a vu dans l'enquête que les personnes se trompaient, elles pensent qu'il y a 50% de
musulmans. Oui, mais vous comme voilà. Nous, quand on le dit, alors, quand on le dit, on n'est plus entendu. On passe presque comme étant des... A priori, des gens qui vont tourner la vérité de l'autre côté. Comment est-ce qu'on...
Non, mais donc d'abord, il faut faire un constat. Il faut être courageux aussi. Il faut dire aux gens, mais toute l'histoire de nos sociétés, l'histoire française, bon, d'où vient la France, du terme franc. Les Francs, c'était des envahisseurs. Et maintenant, on dit que c'est l'identité. Donc, toutes nos sociétés, au fur et à mesure, se mixent, évoluent, changent. On a eu des croisements, etc. Tout le monde valorise la mondialisation des services, des capitaux, etc. Penser que nos sociétés peuvent rester, elles ne le sont déjà plus largement, peuvent rester homogènes, c'est un leurre. Donc nous devons, au lieu de rejeter, se dire de toute façon, nous sommes dans des sociétés de diversité. Et Bruxelles est une ville de diversité. Tout ne va pas bien, sûrement. Nier les problèmes et les incompréhensions et les peurs et parfois des critiques légitimes de part et d'autre, il faut pouvoir l'analyser. Mais on doit se dire, moi je suis profondément universaliste, nous sommes tous des humains qui participons à la même aventure humaine, comment maintenant on va faire réussir cette diversité?
Mais c'est que la question de Jean-Pierre est assez juste, c'est-à-dire que à la limite même, le comment, je ne suis pas sûre qu'on sait comment, donc ça c'est une question, mais après c'est... Comment on parle à ces gens qui ne sont pas convaincus, même des politiques qui sont menées, qui ne savent pas la réalité de la situation? Est-ce qu'on parle à la Trump en s'adressant directement et de façon très différente au peuple, entre guillemets? Comment est-ce que vous allez, vous, hommes politiques, hommes et femmes politiques, porter un message autre?
Sachant qu'il y a peut-être déjà des gens, hein, j'enchaîne, c'est dans le même sens, qui sont en train de tweeter pour le moment. On entend Joëlle Milquet, celle qui a défendu les accommodements raisonnables.
Alors moi je vais faire avancer le débat. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, Joëlle Milquet, pour résoudre
on en reçoit tous.
Votre solution.
Donc, d'abord je pense qu'on doit faire tous, mais il n'y a pas que les politiques, on doit faire de la pédagogie, parce qu'il y a des sentiments qui parlent de chiffres qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Donc moi je pense qu'il y a un énorme problème dans la relation pour le moment entre le monde non musulman et le monde musulman, à tort, à raison, en partie à raison, en partie à tort, et tout le monde doit laver devant sa porte, tant du côté du Belge d'origine qui doit mieux comprendre, essayer d'éviter le racisme, respecter son voisin qui vit sa religion de manière modérée, et en même temps dans le monde musulman, je pense qu'il faut aussi entendre ce qui peut se dire par ailleurs et qu'il y a une évolution sur les discours, sur la formation des imams, sur la manière avec laquelle on doit construire un islam en Belgique et en Europe qui s'intègre dans une société démocratique où il y a des valeurs communes incontournables sur lesquelles on ne peut pas transiger, comme l'égalité homme-femme, comme le fait que nous sommes dans une société où le droit vraiment s'impose à la religion et qu'on est dans un cadre d'une société neutre. Et moi, je crois vraiment que ça ne viendra pas du politique en tant que tel, parce que la tentation électorale, et surtout qu'on aura bientôt des échéances, est là, et que ça peut raviver des simplismes. Moi, je pense vraiment que l'arbitrage... Moi, j'ai été frappé de voir comment on a pu réussir des choses magiques, en fait, avec des forums citoyens en ce qui concerne le pacte d'excellence, ou quand on pose des questions à des groupes de citoyens, il faut le faire de manière à très grande échelle, de manière multiple, où on a des groupes mixtes, en termes de génération, en termes d'origine culturelle, philosophique ou autre, en termes d'âge aussi, parce que vous voyez très bien dans votre enquête que les jeunes sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus habitués déjà tant à la mobilité qu'à la diversité.
Même si majoritairement, ils sont aussi dans l'angoisse des étrangers.
Hein. Mais donc, je pense qu'il y a une grande... Il faut d'abord projeter le citoyen vers un projet positif, en disant, voilà, bon, maintenant, la situation, elle est comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on veut comme société positive, solidaire, humaine, respectueuse demain ? Parce que tout le monde a envie de chercher ça. Alors, qu'est-ce qui blesse ? Et donc, que les gens se parlent, se rencontrent.
Et concrètement, parce que Jacques, vous demandez...
C'est conclure un nouveau pacte avec les citoyens, voilà. C'est ça votre projet ?
Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est de lancer des sortes d'états généraux pour une nouvelle citoyenneté plurielle, mais qui touche plusieurs aspects, parce qu'il y a aussi des aspects de gouvernance, de nouvelles confiances avec le monde politique, institutionnel, parlementaire, une autre manière de représenter le citoyen qui doit beaucoup plus être impliqué qu'au décider, ça c'est un aspect de gouvernance. Mais sur la problématique du racisme, de la xénophobie, du rejet de l'autre, qui moi est vraiment le contraire de ma vision.
Et qui doit lancer ces états généraux ?
Donc moi je crois qu'il faudrait un comité de pilotage, donc j'en parle un petit peu pour le moment avec toute une série de personnes, un comité de pilotage où tous les mondes sont représentés. Le monde des médias, qui a aussi, et à la fois qui est une réponse, mais qui peut être aussi une cause, un moment du soutien parfois, surtout dans les réseaux sociaux, à certains développements racistes. Le monde politique, le monde des corps intermédiaires, syndicats, etc. Le monde associatif qui a beaucoup de choses à dire et le monde académique qui a beaucoup de choses à dire, mais qui doit aussi s'impliquer dans les réformes de société. Qu'on mette un comité de pilotage et que l'on voit quelle opération à multiples facettes, à mon avis, de participation, on lance pour que cette société et ces individus se reparlent et voient eux-mêmes, avec 5-6 questions clés, comment ils font leur arbitrage. Moi, je trouve très intéressant, vous mettez 3 semaines, les week-ends, une vingtaine de personnes ensemble, c'est un peu comme un jury d'assises, et vous leur posez tous les 5 mêmes questions et ils sont mixés. Ils se disent ce qui ne va pas et on essaye de voir quel est le projet de cette société belge demain sur ses valeurs de base. Qu'est-ce qui est incontournable pour nous et à partir de quand,